Bonjour à tous. Le Seigneur m'a appelé vers l'âge de 24 ans. Je lui ai donné ma vie et ma vie a été transformée depuis l'âge de 24 ans. Je suis marié avec Bléa, donc mon épouse. Nous habitons du côté de Donlou. Nous avons une fille, une petite fille qui a bientôt ses 2 ans et nous attendons pour le mois de novembre une deuxième fille. Je suis comblé. Ce matin, j'aimerais nous inviter à nous mettre à l'écoute de Jésus, à nous mettre à ses pieds. Et nous allons lire ou écouter le sermon qu'il a livré aux disciples. Ce sermon appelé le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire donc dans la Bible, le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Nous lirons donc du verset 17 au verset 30. Et dans un premier temps, nous lirons juste les premiers versets, c'est-à-dire les versets 17 au verset 20. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20, dans un premier temps. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui, donc, qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes désignent cette expression, donc désignent l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et il nous en donne la raison. C'est le verset 18. Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, littéralement un seul iota. Le iota, c'est la plus petite lettre du texte donc de l'hébreu. Ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi. Pour Jésus, et c'est important, me semble-t-il, encore de le rappeler, de nous en souvenir et d'en être convaincu, l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi et les prophètes, l'Ancien Testament est inaltérable. L'Ancien Testament est éternellement valable. Par cette affirmation, Jésus reconnaît que la parole de Dieu, et ça c'est quelque chose qui est presque choquant pour la société dans laquelle nous vivons. La parole divine est formalisée, elle a été consignée, mise par écrit dans l'Ancien Testament. Il y a une correspondance entre la parole de Dieu et les saintes écritures, c'est-à-dire la Bible. La Bible n'est pas toute la parole de Dieu, mais la Bible contient cette parole de Dieu. C'est à la fois choquant pour la société dans laquelle nous vivons, croyants ou non-croyants, et c'est peut-être aussi même déroutant pour nous en tant que chrétiens évangéliques. Parce que c'est difficile de concevoir comment le Dieu qui a dit que la lumière soit a pu mettre cette parole qui est extraordinaire dans ce livre, écrire noir sur blanc. Il y a quelque chose de vraiment déroutant, et depuis ma conversion à l'âge de 24 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans, c'est quelque chose qui continue à me faire réfléchir. Je suis passionné par la Bible, par la parole de Dieu. J'ai commencé à la lire vers l'âge de 10 ans, et mes parents étaient donc croyants, donc du coup ils nous ont emmenés à l'église. Et depuis l'âge de 10 ans, je médite et je continue à méditer sur cette parole. Pour Jésus, la Bible est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie pour Jésus ? Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « la Bible, c'est la parole de Dieu ». Mais lorsque nous regardons le ministère de Jésus et la vie de Jésus, nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et si vous regardez juste un petit peu avant, au chapitre 4, Jésus est tenté au désert par le diable. Et comment Jésus va-t-il répondre au diable ? Par les Écritures. Jésus répond au diable par les Écritures lors de la tentation. Remarquez la formulation. Il y a quelque chose de très précis dans le texte. Regardez au chapitre 4, le verset 4 par exemple. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il va le répéter au verset 7, « Il est écrit » et au verset 10 aussi du chapitre 4, « Il est écrit ». Jésus ne dit pas « Dieu a dit ». Mais Jésus dit bien « Il est écrit ». Jésus se réfère donc à la loi et aux prophètes. Donc pour nous, ça veut dire donc à l'Ancien Testament, à l'Écriture comme autorité suprême. Et dans sa vie, dans son ministère, Jésus, le Fils de Dieu, va utiliser cette parole écrite. Au commencement de son ministère, lors de la tentation pour contrer le diable, mais aussi tout au long de sa vie, de son ministère, jusqu'à la croix. Et j'ai l'intime conviction que Jésus, en tant qu'homme, parce que Jésus est 100% homme, il est aussi 100% Dieu, et dans son humanité tout entière, Jésus a médité l'Ancien Testament. Et on le voit, là c'est plus dans l'évangile de Matthieu, mais c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, Jésus déroule le rouleau du livre d'Ésaïe, et Jésus dit, cette parole est accomplie. Jésus a compris qu'il était en fait le Messie, l'envoyé de Dieu, et il est venu non seulement pour annoncer le Père, révéler le Père, mais aussi pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 4, Jésus parle, part en mission. Et Jésus sait, à partir du chapitre 9, dans l'évangile de Luc, que c'est ce qui va l'amener, qui va le conduire à la croix. Jésus avait les idées très claires, non seulement parce qu'il est le Fils de Dieu déjà, mais aussi parce qu'il a médité les Écritures. Je suis intimement convaincu qu'à l'âge de 10-12 ans, Jésus, donc comme beaucoup de Juifs, connaissait déjà donc, toute la loi, le Pentateuch. Et c'est en connaissant toutes ces choses et en grandissant dans l'étude de la parole que Jésus va comprendre de mieux en mieux sa mission, je dis bien, en tant qu'homme. Et donc alors, il y a une substitution, c'est ça qui est important, je pense, de retenir, entre les Écritures, les Saintes Écritures et la parole de Dieu. Jésus ne peut donc pas, et là je reviens au texte de Matthieu, verset 17, ne peut donc pas abolir la loi, puisqu'elle est la parole de Dieu. Et il va au contraire même l'utiliser comme une épée contre le mal. Et sa principale mission donc, va consister à expliquer, à expliciter cette loi. Et notamment, Jésus va expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'accomplir la loi. Mais ce n'est pas tout. Et ces premiers versets donc, nous parlent du statut de la parole. Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Et ces versets, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous parlent de Jésus. Jésus se met au même niveau que Dieu. Et là encore aussi, c'est choquant. Vous avez vu, il y a une progression en fait dans le texte. Il y a « il est écrit », Jésus fait référence à l'Ancien Testament, la loi et aux prophètes. Jésus dit aussi « Dieu a dit », mais maintenant, on passe de « Dieu a dit », « il est écrit » à « moi je vous dis ». Jésus se met au même niveau que Dieu. Jésus, en fait, nous le savons, pour ceux qui ont lu la Bible et pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui est incarné. et c'est celui qui nous révèle pleinement le Père. L'Évangile rapporte les paroles de Jésus. Là, je passe au Nouveau Testament. C'est pourquoi le Nouveau Testament, au même titre que l'Ancien Testament, constitue la parole de Dieu. Toute la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, retenez cela et je résume, cette parole de Dieu, la parole de Dieu a été formalisée et consignée une fois pour toutes dans la Bible. Tout à l'heure, Robert nous a lu l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, dans la fin de temps. Donc, Dieu a parlé autrefois par les anges, par les prophètes, mais dans la fin des temps, et la fin des temps, ça commence avec la venue de Jésus. Et donc, dans la fin des temps, avec la venue de Jésus, donc la parole de Dieu a été formalisée et consignée une fois pour toutes dans la Bible. La conséquence immédiate, elle est très pratique. La conséquence immédiate pour nous est la suivante. Fixer le regard sur Jésus, fixer les regards sur Jésus, ça revient à nous plonger dans sa parole, c'est-à-dire dans la Bible. Je l'ai déjà répété souvent aux étudiants, mais aussi à l'église où j'enseigne. Quand on dit « regardez Jésus », en fait, vous ne pouvez pas le voir. Puisque Jésus, selon le Nouveau Testament, est assis à la droite de Dieu. Sauf si vous voyez le trône de Dieu et que vous voyez Jésus assis à côté. On ne peut pas voir Jésus. Les disciples, lorsque Jésus les a laissés sur terre, donc au début des Actes des Apôtres, Jésus leur a dit, les gars, je m'en vais. Et donc les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Jésus. Et effectivement, il y a une nuée qui vient entourer Jésus. Jésus est élevé dans les airs, et bon, les disciples, ils continuent à regarder dans le ciel. Et bien sûr, à un moment, ils ne voient plus Jésus, donc, mais pourtant, ils continuent à regarder dans le ciel. Et c'est là que les anges interviennent, ils disent, « Oh, il faut vous réveiller, là. Jésus, il est parti. Il faut revenir à la vie. Et surtout, il faut commencer la mission que Jésus vous a confiée. » Et c'est pour ça que les disciples, après, ils retournent à Jérusalem, ils attendent. Et en acte 2, le Saint-Esprit descend, et c'est là qu'ils sont envoyés en mission. Alors, regarder Jésus, ça revient à donc nous plonger dans sa parole. Parce que donc, toute la Bible parle de Jésus. Nous avons chanté des cantiques, des chants. Tout est centré vers Jésus. Et c'est en faisant cela que le Saint-Esprit, et ça c'est important aussi de bien l'expliquer, le Saint-Esprit va utiliser cette parole. Pour reprendre l'expression du prophète Jérémie, le Saint-Esprit va graver cette parole dans notre cœur. Le Saint-Esprit ne travaille pas, je reprends une expression latine, ex nihilo. La création ex nihilo, ça veut dire Dieu a tout créé à partir de rien. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne crée pas quelque chose en nous ex nihilo. Il utilise la parole de Dieu, la parole de Jésus, et en utilisant cette parole, en la gravant en fait dans notre cœur, il nous prépare à toute œuvre bonne. C'est ça le processus de la Trinité. Dieu est Père, Dieu a envoyé son Fils nous communique la révélation de Dieu, et le Saint-Esprit grave cette parole en nous. Et j'argumente encore une fois, dans l'évangile de Jean, Jésus enseigne aux apôtres, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous dira tout ce que moi je vous ai déjà dit. Processus de gravure dans notre cœur de la parole. Processus qui va et aussi nous préparer à toute œuvre bonne, à devenir des chrétiens, des chrétiennes, des hommes et des femmes qui vivent selon la volonté de Dieu et qui plaisent à leur Dieu. Comment alors? Comment mettre en pratique cette parole de Dieu? Comment laisser le Saint-Esprit graver la parole de Dieu, la Bible, dans notre cœur. Jésus ne prêche pas à des cailloux. Jésus ne prêche pas à des pierres, à des tables, à des chaises. Et je ne prêche pas à des murs, ou à un sol, ou à un plafond. Je prêche la parole à des cœurs, à des hommes et des femmes, afin que chacun, nous puissions connaître de mieux en mieux qui est Jésus et comment nous allons vivre de telle manière que Jésus soit glorifié. Jésus va donc maintenant inviter les personnes à mettre en pratique la parole. Et il me semble que cet élément se trouve dans la notion de accomplissement du verbe accomplir. Et nous allons, dans cette deuxième partie du message, regarder comment Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir cette parole de Dieu. Et en disant cela et en explicitant cela, Jésus va nous expliquer comment nous pouvons aujourd'hui mettre en pratique et accomplir aussi la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à reprendre le texte biblique et nous allons lire donc les versets 21. Nous continuons la lecture au verset 21 jusqu'au verset 30. Donc toujours Matthieu, chapitre 5, les versets 21 au verset 30. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans colère, qui se met sans raison en colère contre son frère, mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, si tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Verset 27 maintenant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Et pour reprendre l'expression du texte, donc c'est Jésus qui le dit aux disciples au verset 19 et 20. Verset 20, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. » Je vous le dis, je répète, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. » Comment obéir, en fait, à la loi? Je commencerai par peut-être résumer ainsi pour que vous ayez un petit peu le fil de la réflexion ce matin. Finalement, nous avons peut-être tous une Bible. Si vous n'en avez pas, allez en acheter une, ça ne coûte pas très cher. Nous avons tous une Bible. Mais comment, et la question est maintenant la suivante, comment est-ce que nous allons mettre en pratique les commandements de la Bible? Comment nous allons mettre en pratique cette parole de Dieu? On pourrait se dire, je suis chrétien, mais bon, l'obéissance, ce n'est pas pour moi. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est suffisant. Je suis sauvé. Je peux faire ma vie un petit peu comme je veux. Je peux même, et ça c'est une très grande tentation, faire un Dieu à ma propre image. Dieu nous a créé à son image, mais la tentation c'est toujours de faire un Dieu à notre image. Bon. Ça, dans la Bible, ça ne me convient pas. Allez, je vais enlever ces quelques pages, ou ces quelques versets, ou ces quelques chapitres. Je vais le découper. Et en fait, la foi chrétienne, ben, je vais concevoir un Dieu qui me plaît. Le Dieu populaire. Ah, le péché, aujourd'hui, ça choque trop les gens. Faut peut-être pas parler de péché. Faut pas parler aussi d'un Dieu qui est juste. Un Dieu qui va condamner des gens et qui va les envoyer en enfer. Non, c'est pas très, politiquement très correct. On va se faire un Dieu à son image, qui convient à nos propres convictions. Et lorsqu'on commence à faire ça, après on va très loin. Jésus, me semble-t-il, n'a jamais raisonné de cette manière. Jésus avait un profond respect pour la parole. Et Jésus lui-même le dit, on n'enlèvera rien à la loi, en fait, aucun trait de la lettre, aucune lettre de la loi ne disparaîtra. Pour Jésus, encore une fois, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est puissante, elle est efficace. Et pour nous, ça veut dire, me semble-t-il, si nous avons vraiment donné notre vie à Jésus, c'est comment est-ce que nous pouvons aussi faire en sorte que cette parole de Dieu, elle résonne en nous, elle soit la vérité, et elle soit aussi notre autorité. Comment obéir, comment mettre en pratique la parole de Dieu? Je dois reconnaître que ce n'est pas facile. Pour ceux qui le savent, je suis un ancien étudiant de la Bible. En tout cas, j'ai fait de la théologie, j'ai appris l'hébreu, le grec. Et je fais appel à cela parce que le texte grec, si vous reprenez les premiers versets que nous avons lus, avant de revenir vers la deuxième partie, verset 19, c'est la traduction que j'ai lue, la seconde 21. « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. » Le verbe « violer », c'est la traduction du texte français, mais dans le texte grec, c'est le verbe de la même racine que le mot « abolir ». Donc, quand Jésus dit « je ne suis pas venu pour abolir », c'est le verbe « kataluo ». Et le verbe « violer » qui est traduit donc au verset 19, c'est le verbe « luo ». Vous avez « kataluo » et « luo ». Donc Jésus, j'essaye d'expliquer un petit peu les choses, est en train de dire « je ne suis pas venu pour abolir » et vous n'avez pas à… Donc la traduction française, c'est « violer » en fait. Donc « violer » est un peu moins fort… abolir. Donc, je raisonne en termes grecs, hein, d'accord? Je ne suis pas venu abolir et vous ne devez pas mettre de côté, en fait. Je ne suis pas venu abolir, c'est-à-dire enterrer la loi de Dieu et vous n'avez pas à... De toute façon, vous ne pouvez pas l'enterrer. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Que vous le vouliez ou non, elle sera toujours là. Elle sera toujours puissante, elle sera toujours efficace. Mais vous n'avez pas à la mettre de côté, à l'ignorer. Jésus ne parle pas, et je sais que dans certaines traductions de la Bible, de transgression de la loi. De toute façon, si vous transgressez la loi, vous êtes mort déjà. Ici, Jésus parle, donc Matthieu chapitre 5, sermon sur la montagne, aux disciples, c'est-à-dire ceux qui ont décidé déjà de suivre Jésus. Jésus ne parle pas de transgresser la loi. Encore une fois, si vous transgressez la loi, vous êtes mort, parce que vous péchez. Jésus est en train de dire, moi je ne suis pas venu pour abolir, et vous n'avez pas à mettre de côté, à ignorer. Vous n'avez pas à faire comme si voilà, la Bible n'existait pas, ce commandement n'existait pas. En fait, c'est encore une fois une réalité dans notre vie, hein, peut-être pour vous aussi. Chaque fois que nous mettons de côté des passages bibliques qui nous dérangent. Ah, ce verset-là, il me dérange. Allez, on va le ranger derrière. Je vais mettre d'autres qui sont peut-être plus conformes à ma pensée devant. Ou ce verset-là, je ne le comprends pas. Donc du coup, je le mets derrière. Non, toute la Bible, si vous commencez à mettre des choses de côté, c'est que vous enlevez peut-être une portion, une lettre, un trait de la loi. Mais on ne peut pas faire comme ça. En tout cas, ce n'est pas l'enseignement que Jésus a adressé aux disciples qui étaient assis au pied de Jésus. On ne peut pas enlever les choses qui ne nous intéressent pas dans la Bible. On ne peut pas mettre de côté. Et regardez le verset 19. Si nous, en fait, nous mettons de côté les choses, verset 19, vous serez appelé donc le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé, donc à les mettre en pratique, pardon, sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Et je fais déjà une petite parenthèse. Pour ceux qui connaissent l'évangile de Matthieu, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit bien aux disciples, faites disciples des nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Chapitre 5, Jésus commence déjà, en fait, son raisonnement et la mission qu'il va laisser aux disciples. Donc, il ne s'agit pas, en fait, donc, de mettre de côté, d'ignorer la parole. Et dans quelques instants, nous allons passer aux deux exemples que nous avons lus à partir du verset 21. On va le voir, ce sera peut-être un petit peu plus explicite. Jésus donc, nous indique que ce n'est pas la bonne attitude attendue d'un disciple. Le bon disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de la Bible. Le bon disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de la Bible, c'est-à-dire de Jésus. Et peut-être que là, c'est déjà le premier problème. Est-ce que il vous arrive d'ouvrir la Bible quotidiennement ou une fois par semaine? Peut-être que c'est plus facile pour vous, et peut-être pour moi aussi, d'écouter le journal de la télé de 13h ou de 20h. C'est vrai, tous les soirs, moi j'écoute à 19h45, si c'est sur M6 ou si sur TF1, le journal. Peut-être que le premier problème pour nous, c'est déjà, est-ce que nous acceptons de nous mettre aux pieds de Jésus, d'ouvrir sa parole et d'écouter qu'est-ce que Jésus a à nous dire au travers de la Bible? Ça, c'est le premier problème. Et que chacun, si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est amené à peut-être mettre de l'ordre dans ce domaine. Deuxième gros problème, et celui-là est encore plus grand, je trouve, même si on se met à l'écoute de Jésus, est-ce que nous obéissons à la parole lue ou entendue? Ou est-ce qu'on se limite juste à écouter? Ça y est, j'ai lu la Bible. J'ai rempli mon devoir de bon chrétien. Est-ce que je me limite juste à écouter la Bible, à honorer en parole? Parce que si nous faisons que cela, hélas, nous sommes encore loin de l'enseignement radical de Jésus. Le bon disciple qui obéit à la parole, c'est celui qui conforme sa vie et ses décisions aux enseignements bibliques. Nous sommes sur le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et le sermon sur la montagne continue jusqu'au chapitre 7. Et le chapitre 7, vous le connaissez très bien, je pense. À la fin du chapitre 7, Jésus donne cette parabole ou cette image. Le sage, il a construit sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Et le fou, il a construit sa maison sur le sable. Le sage et le fou, les deux ont la parole de Dieu. La différence, c'est qu'il y en a un qui met en pratique et l'autre, il fait comme si de rien n'était. Il viole les commandements, il n'écoute pas en fait la Bible. Donc on peut tous avoir une Bible, mais si nous en fait n'obéissons pas à la parole, c'est-à-dire nous ne conformons pas notre vie, nous ne prenons pas nos décisions au regard de l'enseignement de Dieu, c'est un gros problème. Et c'est très difficile maintenant d'obéir. Alors comment obéir ? Pour obéir, on a besoin de comprendre, de bien comprendre. Et contrairement aux pharisiens, Jésus n'encourage pas à une application littérale des commandements. Finalement, il y a deux extrêmes dans la mise en pratique de la parole. Soit vous êtes laxiste, ce verset est trop difficile, je ne sais pas quoi faire avec, ou ça ne me plaît pas. Je suis laxiste, je la mets de côté, je l'ignore. Soit vous êtes légaliste. Dieu a dit, je vais le faire. Et là, Jésus est en train de parler de ce comportement qui est laxiste, de cette application littérale des commandements. Jésus veut nous inviter à dépasser le légalisme des pharisiens, des scribes de la loi. Regardez au verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. » Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Oui, c'est pas faux que c'est un royaume de bisounours. Non, je ne dirais pas ça. Il y a de l'amour. Mais l'amour va avec la justice et la vérité. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Et Jésus est en train de dire aux disciples, « Votre justice doit dépasser celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. » Il ne faut pas croire que les pharisiens étaient Voilà. Non, les pharisiens observaient à la lettre la loi. Et une tradition juive rapporte qu'il y avait, donc ils auraient en fait 613 commandements, qu'il y aurait 613 commandements dans le Pentateuque. 248 positifs faits et 365 négatifs ne faits pas. Il s'attachait vraiment, hein, les pharisiens, à mettre en pratique, littéralement, la Bible, l'Ancien Testament. Et les pharisiens, en essayant de faire ça, Jésus est en train de dire, il faut dépasser cela, les gars. C'est encore plus dur. La voie de Jésus, c'est ni le légalisme, ni le laxisme, mais c'est une voie qui est encore plus radicale. Jésus n'abolit aucun des commandements, parce qu'il va les accomplir. Et pour pouvoir accomplir les commandements et pour pouvoir les mettre en pratique, en fait, Jésus nous invite à bien comprendre, à bien interpréter sa parole. Je reprends les deux exemples. Le premier exemple d'abord. Tu ne commettras pas de meurtre. Si vous voulez être légaliste, ok, Jésus, j'ai jamais tué personne. J'ai rien à me reprocher. Donc je suis légaliste. Et d'un côté, en devenant légaliste, je vais être aussi laxiste. Bon, Jésus, j'ai déjà accompli ce commandement. Plus besoin de ce commandement, je vais passer au prochain. Quand on a un regard, une lecture légaliste, ça va nous conduire à un moment ou à un autre à une lecture laxiste. Ne pas tuer, c'est un commandement tiré du décalogue. Et non seulement il ne peut pas être aboli, on ne peut pas en fait le mettre de côté, mais Jésus en fait nous invite à le mettre en pratique encore aujourd'hui. Et comment est-ce que Jésus justement le met en pratique aujourd'hui? Il y arrive parce que, en fait, je pense que Jésus comprend le sens de ce commandement et Jésus, en fait, nous propose même, en fait, des applications dans le texte. Le sens du commandement, dans le cas du meurtre, tu ne commettras pas de meurtre, si vous reprenez un petit peu les versets 21 à 26, c'est quoi? C'est de ne pas porter atteinte à la vie de l'autre. C'est ça, le sens du commandement. Quand vous tuez quelqu'un, vous portez atteinte à sa vie. Mais ce n'est pas simplement le fait de tuer une personne où vous portez atteinte à sa vie. Et le sens du commandement, c'est ne pas porter atteinte. Le but, c'est de viser la restauration et l'amour. Regardez avec moi le texte. Tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus dit maintenant, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Donc, se mettre en colère, ce n'est pas tuer. Mais en fait, c'est déjà porter atteinte quelque part à sa personne. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. À chaque fois que vous portez atteinte à quelqu'un, à votre frère ou à votre sœur, en fait, quelque part, vous êtes en train d'enfreindre ce commandement, tu ne tueras point, en fait. Vous avez vu comment Jésus raisonne et comment est-ce qu'il a une parole d'un décalogue vieux de 4000 ans. Jésus, il donne toute son actualité aujourd'hui. Et dans l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui et dans la société dans laquelle nous vivons, oui, ce commandement du meurtre a toujours toute sa pertinence. Combien de fois avez-vous blessé un membre de votre famille? Je suis marié avec mon épouse. Combien de fois par jour ou peut-être par semaine on se fait du mal? Quand vous vivez 24 heures sur 24 avec quelqu'un, toute proportion gardée, quand vous voyez une personne qu'une fois par an, ça va. Peut-être que vous ne vous mettez pas trop en colère avec lui. Mais 24 heures sur 24, mais c'est terrible. Jour et nuit, vous ne pouvez même pas partir. Donc, ne pas porter atteinte à celui ou celle qui est notre conjoint, ou à nos enfants, ou à nos collègues de travail, ou à nos camarades étudiants, ah, c'est difficile. C'est terrible. Mais cette parole, elle est toujours d'actualité, et encore plus. Et dans l'Église, combien de frères et sœurs on offense sans le faire exprès, forcément. Et Jésus nous invite, au verset 24, « Laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens. » Pour Jésus, c'est très clair. On a beau chanter « Jésus, Jésus, tu es mon sauveur. » C'est juste que je viens de blesser mon frère qui est là et ma sœur qui est là. Je fais comme si de rien n'était. De toute façon, Jésus, je suis sauvé, donc du coup, bah... Non, c'est pas ça. la radicalité de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça l'Église, me semble-t-il. On a blessé quelqu'un, Jésus nous demande de laisser notre offrande. C'est vraiment fort ce que Jésus est en train de dire. De se réconcilier et de viser l'amour. Et donc le sens du commandement « tu ne commettras pas de meurtre », c'est de ne pas porter atteinte à la vie de l'autre. Et le but, c'est de restaurer cet amour, cette relation avec le frère ou la sœur avec qui nous avons eu un conflit ou on s'est mis en colère. Reprenons maintenant aussi le cas de l'adultère. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Si vous êtes légaliste, si nous sommes légalistes, nous allons nous dire « Ah Seigneur Jésus, je suis fidèle à mon épouse. Je n'ai jamais commis d'adultère. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre en dehors du mariage. » Si donc vous êtes légaliste, après à un moment vous allez devenir aussi laxiste, comme je disais. « Oh, ça y est, Jésus, ce commandement du décalogue, j'ai réussi à l'appliquer. Passons au prochain. » Regardez comment Jésus, encore une fois, il rend à la parole de Dieu toute sa pertinence et toute sa vitalité. « Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Jésus met en rapport le commandement d'adultère avec donc tous les versets que je viens de lire et que nous venons d'entendre. Et donc, en fait, on comprend que le sens du commandement de l'adultère, c'est de ne pas laisser le péché prendre racine. Il ne faut pas laisser le péché prendre racine, parce que dès qu'il a pris racine en nous, et Jésus va le dire, c'est du cœur que, en fait, jaillissent les mauvaises choses. Qu'est-ce qui va se passer ? Convoiter du regard constitue un adultère, car c'est le commencement du péché. Et effectivement, c'est le commencement du péché. Le péché, une fois enfanté dans le cœur, va conduire tôt ou tard à l'acte. Et donc, il faut couper court au mal en l'arrachant dès son apparition. Et le but, c'est la fin du verset, c'est d'échapper à l'enfer, de ne pas voir son corps entier jeté en enfer. Cette quête de sens et de vérité, me semble-t-il, nous conduit sur la voie, la bonne voie qui n'est ni la voie du légalisme, ni la voie du laxisme, mais celle de la radicalité de l'obéissance. Et cette obéissance auquel Jésus nous appelle, c'est bien en fait une obéissance éclairée, une obéissance lucide, une obéissance qui cherche en fait la justice et la vérité. C'est une obéissance qui dépasse l'obéissance légaliste des pharisiens. C'est une obéissance qui nous éloigne du laxisme et c'est une obéissance qui nous conduit sur les chemins de la justice. Jésus transpose et il adapte l'interdiction du meurtre dans l'Église. Je reviens aux deux exemples. On peut tuer les gens par nos paroles. C'est terrible. Une seule parole, ça peut blesser toute une vie. Une parole, ça peut diviser l'assemblée. Il faut vraiment faire attention à nos paroles. Je suis le premier en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant. Et je confesse que combien de fois j'aurais dû me taire ou dire autrement les choses pour ne pas blesser telle ou telle personne. L'Évangile révèle cette triste réalité qui était présente dans l'Église du temps de Jésus, mais qui est encore présente dans nos Églises aujourd'hui. Deux frères se sont trouvés en conflit, séparés, et on peut faire comme si de rien n'était. On vient en culte tous les deux, chacun prend sa Sainte-Cène, c'est la vie. Jésus il a déjà tout pardonné, il est déjà mort pour nous, donc du coup, vivons comme ça. Mais il me semble que ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Et ce n'est pas un bon témoignage pour nos enfants. Et il y a beaucoup d'enfants et de jeunes dans cette Église qui vont grandir. Et ils vont retenir plus ce que nous aurons montré et fait que ce que la Bible enseigne. Ce sont nos enfants, ils sont comme ça. On aura beau leur prêcher un évangile de pardon, de justification, de réconciliation et d'amour, nos enfants, ils vont retenir, ah tiens, j'ai vu comment est-ce qu'étaient ces gens de l'Église. Et ils vont plutôt vivre de cette manière-là. Notre vie doit se conformer à l'Évangile, non seulement pour plaire à Dieu, mais aussi pour nos enfants, pour que nos enfants aient un modèle. Et pour que nos enfants ne suivent pas le modèle de la société dans laquelle nous vivons. L'interdiction d'adultère, c'est terriblement bouleversant aussi, ce commandement d'adultère. Et regardez encore une fois la pertinence pour nous aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure d'Internet. Un seul clic sur votre smartphone ou sur votre clavier d'ordinateur et vous arrivez sur des sites pornographiques. C'est gratuit en plus maintenant, ni vu ni connu. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si vous vous battez avec la pornographie, sachez que vous êtes en train de vous battre avec ce commandement d'adultère. Et c'est un combat que chaque homme et peut-être chaque femme aussi, nous sommes appelés à livrer. Et si vous êtes tenté, Jésus donne la solution. Coupe ton doigt, arrache ton bras ou crève tes yeux. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un bras en moins, deux yeux en moins ou un œil en moins que de voir tout le corps tout entier entrer en enfer. C'est radical le message de Jésus. Mais c'est à ce prix-là pourtant que on entre dans le royaume des cieux. En révélant le sens et le but de la loi, Jésus, il va l'accomplir. Il va dégager tout le sens et il va l'amener au but fixé. Et cela permet d'appliquer la loi à des époques, à des cultures différentes. Ainsi, la loi de Dieu, elle garde toute sa validité et sa pertinence. Aucune lettre, aucun trait de la loi. J'aimerais conclure. Nous arrivons en fait au terme un petit peu de notre texte et aussi du message aussi. Et nous nous retrouvons donc face à ce terrible problème. Le problème de l'obéissance. L'obéissance authentique et véritable. Le sermon sur la montagne est d'une telle radicalité. C'est tellement dur pour les disciples. Et c'est dur pour nous aussi. En exégèse, c'est-à-dire en interprétation de la Bible, on dit souvent que ce sermon sur la montagne est un des textes les plus difficiles dans le Nouveau Testament. Et il me semble que la difficulté de ce texte réside dans le fait qu'il y a une telle radicalité. Jésus n'est pas en train de vous dire de vous couper le bras, littéralement. C'est plus facile de se couper le doigt ou le bras que d'obéir à Jésus. Parce que même en ayant coupé le bras, après, vous pouvez ne pas obéir à Jésus. C'est tellement radical. Mais pourtant, c'est à ce prix-là qu'on obéit, qu'on entre dans le royaume des cieux. Et Jésus va le dire aussi à la fin du sermon sur la montagne au chapitre 7, juste un petit peu avant l'image du sage et du fou. C'est la porte étroite, la porte resserrée que peu empruntent, mais qui conduit pourtant à la vie. Jésus a dit aux disciples aussi, toujours dans ce chapitre 5, ce sont les versets qui sont juste un petit peu avant notre texte de ce matin, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il y a un christianisme salé, il n'y a pas de christianisme salé, pardon, qui n'aille à contre-courant de la société dans laquelle elle vit. Il n'y a pas de christianisme salé qui n'aille à contre-courant de la société dans laquelle elle vit. Le sel qui a perdu sa saveur. Et là, j'aimerais peut-être vous donner quelques éléments d'explication en tant qu'enseignant de la parole. Dans l'évangile de Matthieu, différemment de Luc et de Marc, le sel qui a perdu sa saveur, littéralement en grec, ça signifie le sel qui est devenu fou. Il est là le sens. Le sel qui a perdu sa saveur, en grec, ça signifie le sel qui est devenu fou. Le sel sans saveur, c'est le disciple fou. C'est le disciple qui connaît la parole, mais qui ne la met pas en pratique. C'est ce fou dont Jésus va parler au chapitre 7. Et quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il a entendu, il a grandi dans l'Église, il ne la met pas en pratique, on ne peut pas faire grand-chose. Non seulement on ne peut pas faire grand-chose, mais au final il sera jeté dehors. Et si nous lisons la Bible depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, et que nous ne la mettons pas en pratique, à un moment, on va être jeté dehors. Je confesse faire partie des disciples qui n'arrivent pas à obéir à la parole. J'ai parfois peur d'être jeté dehors. Même si, comme je disais, peut-être sur ces 3 commandements, j'ai réussi. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, hein, Jésus me le dira au son retour. Mais j'ai parfois peur d'être dehors. Je sais que Jésus m'a racheté. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie. Il a été cloué à la croix. Mon péché est cloué. Mais le fait de ne pas obéir à ses commandements, et quand je dis obéir, ce n'est pas juste l'obéissance littérale, j'ai parfois peur d'être jeté dehors. Alors peut-être que d'autres ici aussi éprouvent cela comme moi. Mais Jésus nous donne l'espérance. Jésus ne nous écrase pas avec la loi. Il nous dit qu'il a déjà tout accompli. Il nous assure qu'en lui, tous les commandements de Dieu ont été satisfaits et il a payé pour tous nos manquements, pour tous nos péchés. Il nous invite alors à vivre un christianisme salé, un christianisme qui n'est pas constitué de disciples fous, mais un christianisme constitué de disciples qui obéissent et qui ont choisi la voie de la radicalité de l'Évangile. C'est-à-dire un christianisme qui met en pratique la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui vit. Ce mardi, nous avions donc toujours avec les étudiants sur le campus de Villejean nos rencontres de discussion autour de la Bible. Et il y a un étudiant qui vient un petit peu d'une église, des églises plutôt catholiques. Et j'étais frappé. Et cet étudiant disait, moi je ne veux pas être appelé chrétien, mais je suis croyant. Parce que dans sa tête, les chrétiens, c'était ça. C'était ce qu'il a rencontré. C'est-à-dire des gens qui... Et là, je parle du contexte catholique, je ne fais pas de focalisation dessus, mais il parlait de la chasteté, notamment. Il n'y a pas de chasteté. Cet étudiant voulait entrer au séminaire. Et il nous a dit clairement, moi, je n'ai pas compris. On me parle de chasteté, et je veux entrer au séminaire, et je me rends compte que mes camarades ne sont pas chastes. C'est incohérent. Et donc, cet étudiant disait, je ne veux pas être appelé chrétien, parce que c'est ça, les chrétiens. Mais je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus, et moi, je crois en la parole. Et cet étudiant a même dit, moi, de toute façon, quand le prêtre il prêche, j'écoute pas le prêtre, je regarde la quintessence de la parole. Mais c'est génial. Je lui disais, mais t'es évangélique, mon gars. Oui, nous croyons en Jésus-Christ, en sa parole. Et nous avons à la fois non seulement un devoir, mais c'est aussi un privilège de vivre l'Évangile. Jésus nous appelle à un christianisme salé. Et en étant ce christianisme salé, c'est-à-dire qui met en pratique la parole de Dieu, nous serons alors comme des lumières pour le monde. C'est le verset que je n'ai pas lu, mais qui est juste avant le verset 17. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu. En vivant un christianisme salé, nous serons comme des lumières pour les hommes. Jésus est la lumière, mais nous serons comme des petites lumières qui un jour, donc nous témoignerons à ces hommes, et ces hommes qui peut-être ne connaissent pas Dieu ou qui ont été blessés par l'Église, ils vont venir à Jésus, ils vont célébrer la gloire de Dieu. J'aimerais nous inviter pour conclure à méditer ce texte encore, et j'aimerais conclure par la prière avec vous. Merci Seigneur d'avoir consigné ta parole par écrit. de lui avoir donné un contenu que nous pouvions aborder, que nous pouvions lire, que nous pouvons lire et méditer. Et même si, en ayant cette parole, la Bible, tout n'est pas résolu, c'est déjà le commencement. Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi. Ta parole est vraiment une lampe à nos sentiers, une lumière pour nous. Aide-nous dans notre quête de justice et de vérité à nous attacher à toi au moyen de ta parole. Et nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit éclaire notre lecture, notre compréhension de ce que tu as laissé dans la Bible, afin que nous apprenions à mieux t'obéir. Seigneur Jésus, nous prions que tu resplendisses dans notre vie, non seulement lorsque nous sommes rassemblés au culte du dimanche, non seulement dans les groupes, les foyers, non seulement lorsque nous sommes dans des activités de l'Église, mais au-delà de ces choses, que 24 heures sur 24, dans nos relations dans le monde, nous puissions être les témoins de Jésus-Christ. Et Seigneur, si nous voulons le faire, c'est parce que nous savons que toi, tu l'as fait, tu es mort pour nous, et tu nous envoies en mission. Merci Seigneur de nous aider à être comme des lumières pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Et ça commence déjà dans l'Église, que nous soyons comme des lumières les uns pour les autres, en train de cheminer et d'apprendre ensemble pour la gloire de ton nom et pour en signe de reconnaissance de ce que tu as fait en notre faveur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.